Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Voilà. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon ?
Voilà, messieurs.
Oui. Mais comment on boit ça ?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Et on va présenter l'épisode numéro 0 du podcast du raisin et des papilles. Au programme aujourd'hui, je vais vous présenter Adrien, qui est le créateur de jus de la vigne. On va tester un vin Géorgie, du vin en Géorgie.
Ça a même été les premiers à faire du vin dans le monde, attention.
Du coup, on va remonter à la préhistoire du vin dans le monde. C'est magnifique, non ? Et enfin, on vous présentera un concept de restaurant danois à Strasbourg qui s'appelle Norbro. Est-ce que tu connais Norbro ?
Eh bien écoute, je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je rentre à l'intérieur et ça a l'air d'être très intéressant.
Sacrilège ! Je vous présenterai Johnson qui est le créateur de ce concept et vous verrez qu'il a une sacrée bonne idée. Pour commencer ce podcast, je vais vous présenter mon acolyte puisque mon acolyte a une petite connaissance dans le vin, et en plus c'est un entrepreneur dans le vin. Il propose des box que vous pouvez acheter tous les mois et vous aurez du vin, alors il vous expliquera mieux. Hein. Du coup, je vous présente Adrien. Alors Adrien, tout simplement d'abord, qui es-tu ?
Bien, donc moi je m'appelle Adrien, donc j'ai 30 ans, et effectivement j'ai lancé ma société qui s'appelle Jus de la Vigne il y a un an et demi maintenant, c'était en juillet de l'année dernière. Jus de la Vigne, qu'est-ce que c'est ? Donc je pars à la rencontre de deux vignerons tous les mois. Je vais les rencontrer dans leur domaine, je vais filmer leur vigne, filmer leur cave, et eux ils vont m'expliquer un petit peu la démarche qu'ils ont, puisque je ne sélectionne que des vignerons qui travaillent en bio ou en biodynamie et qui font des vins nature par la suite. Donc ces vidéos sont à retrouver sur la chaîne YouTube. Et par la suite, je propose à ceux qui sont abonnés de recevoir les bouteilles de ces vignerons directement chez eux dans des box mensuelles, comme tu l'as dit.
Comment tu as eu cette idée du jus de la vigne ? Comment ça t'est... Je suppose que tu as peut-être commencé par acheter des box ailleurs, puisque c'est un peu la grande mode aujourd'hui. Tu achètes des box de thé, de café, il y en a plein. D'ailleurs, à Strasbourg, il y a une box de café qui est proposée. Peut-être que je vous les présenterai un jour. Coucou Delphine. Comment tu as eu cette idée de faire jus de la vigne ?
Alors, j'étais effectivement abonné à la première box vin en France, qui était 3x20 à l'époque. Donc, j'étais abonné il y a quelques années. J'avais trouvé que le concept était vraiment super intéressant de pouvoir goûter des vins qu'on n'aurait pas forcément acheté de soi-même chez un caviste. En fait, moi, j'ai fait une dizaine d'années dans la restauration avant ça. Et ça a toujours été un rêve d'ouvrir un bar à vin, un bar à charcuterie, et d'avoir quelque chose d'hyper convivial comme ça. Donc quand j'ai eu l'occasion, j'ai commencé à faire beaucoup de salons, à aller rencontrer pas mal de vignerons. J'ai allumé ma caméra parce que je trouvais qu'il y avait énormément de blogs sur le vin, mais qu'il n'y avait pas suffisamment de chaînes YouTube et de vidéos par rapport à ça. Donc pour toucher des gens qui ne sont pas forcément hyper intéressés pour lire de longs articles, je pense que le format vidéo était assez intéressant. Et après, je me suis demandé comment faire pour essayer de gagner ma vie et de continuer à faire ça finalement encore pendant des années et des années. Donc l'idée de la boxe me permettait de continuer à faire des vidéos et de nouvelles rencontres tous les mois. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de la boxe au cul de la vigne.
Souvent les gens, quand ils entendent parler de vin nature, ils pensent que ce sont des vins qui sont chers, qui ne sont pas accessibles. Surtout les jeunes, quand on les entend, ah oui, mais une bouteille, c'est très cher. Comment est-ce que toi, tu pourrais convaincre un jeune qui aime bien boire, mais qui n'a pas beaucoup de moyens, ou pas forcément un jeune, hein, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui aiment bien boire quand même, pour justement éviter qu'ils achètent leur vin en grande distribution? Parce que le but, et le but de podcast aussi, c'est qu'on mette en avant les vignerons, les cavistes, etc. Il y a plein de cavistes à Strasbourg et en Alsace qui sont louables. Donc c'est eux que nous on veut mettre en avant, ce sont des indépendants, et je précise bien des indépendants. Qu'est-ce que tu dirais, toi, quelqu'un qui se dit, ok, je bois des vins conventionnels, mais je veux bien être un amateur de vin ou un buveur de vin éco-citoyen. Qu'est-ce que tu lui dirais?
J'ai peut-être plusieurs réponses. Déjà, la première, pour moi, je pense qu'il faudrait essayer de réduire un petit peu sa consommation d'alcool, boire un petit peu moins, mais un petit peu mieux. Je pense que ce serait la première réponse. Plutôt que de prendre un cubit de 5 litres, pour le même prix, on pourrait avoir une ou deux bouteilles de vin nature et ce serait quand même beaucoup plus intéressant. L'autre idée qui pourrait être intéressante à développer, c'est comme tu cibles les jeunes, si on prend le prix de 4 mojitos, par exemple, qu'on prend le samedi soir, sans goût, avec énormément de sucre dedans, pour le prix de 4 mojitos, on pourrait pareil s'acheter deux bouteilles de vin. Et enfin, tout simplement, goûter ces vins-là, quoi. Quand on goûte un vin naturel, on se rend quand même compte que le travail qui a été fait derrière et la personnalité du vigneron et surtout du terroir est complètement là. Et je pense que si on achète des bouteilles à moins de 5 euros, par exemple, au supermarché, on se rend bien compte qu'on n'a pas du tout la même chose. On a un vin qui est technologique. Si on enlève le prix de la bouteille et du bouchon, on se demande même comment ils arrivent à sortir des vins à ce tarif-là.
Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu avais fait quelques années dans la restauration. Comment est-ce que toi, t'es tombé dans le vin? Comment tu as réussi à passer du vin, disons conventionnel, à du vin nature?
J'ai travaillé dans des restaurants qui ne proposaient effectivement pas du tout de vin naturel. Mais je pense que en tout cas c'est ma position, quand on propose un produit à ses clients, on a quand même envie de le goûter, de comprendre comment il est fait et d'approfondir un petit peu cette connaissance. Donc je me dirigeais déjà dans la nourriture vers de plus en plus de bonne nourriture, quelque chose de peut-être un peu plus local, un peu plus bio, et avoir de nourriture de plus en plus intéressante aussi. Et pour le vin, c'est tout simplement en faisant des salons de vin nature où vraiment j'ai été convaincu. Commencer déjà à acheter un petit peu chez certains cavistes qui sont ici, donc Neusfer, Au Fil du Vin Libre, qui sont vraiment pas loin de là où nous enregistrons. Et j'ai eu l'occasion de faire un premier vin nature qui m'a mis une véritable claque, à savoir que tous les trois vins que je dégustais, je trouvais que c'était exceptionnel. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose, et le seul dénominateur commun finalement, c'était du vin d'Alsace déjà, donc ça c'est quelque chose de très positif, mais c'était aussi du vin naturel, donc c'était vraiment le dénominateur commun. Et en discutant avec les vignerons, il y avait effectivement cette cohérence aussi que je trouvais complètement, parfaitement cohérente. On nous montre toujours des cartes postales du vignoble un peu partout, alsacien, et puis finalement quand on se rend compte qu'on le modifie énormément en cave, je trouve qu'il n'y a pas trop de cohérence, quoi. Là, le vin nature, c'est de prendre la meilleure qualité de raisin possible, l'accompagner sans le modifier, et puis finalement on a le terroir dans la bouteille. Et finalement, moi je trouve qu'on se prend énormément de très belles claques et de très jolies dégustations sur le monde du vin nature, que je ne retrouve pas malheureusement, ou très très peu, dans le vin conventionnel.
En même temps, boire du raisin, c'est le but de boire du vin, me semble-t-il. Du coup, tu sais qu'avec le podcast, le but c'est aussi de goûter forcément des choses qui ne sont pas forcément nature. Qu'est-ce que tu dirais, toi, quelqu'un qui est encore un peu réticent? Finalement, c'est comme un peu les gens qui ont du mal à passer du Nutella à autre chose, de plus sain, mais parce que ça n'a pas le même goût. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, en fait, pour le convaincre de passer du vin conventionnel à du vin nature? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
Mais j'aurais envie de lui ouvrir une bouteille et lui faire déguster à l'aveugle, parce qu'effectivement, souvent, on a un a priori sur le vin nature qui serait peut-être déviant. Même sur les vins bio, encore, on entend des gens dire « Non, le vin bio, c'est pas bon », comme si le fait de mettre des produits de synthèse dans les vignes, ça allait améliorer le goût du vin. C'est quand même assez particulier. Tout simplement, je lui ouvrirai une bouteille à l'aveugle et je lui ferai goûter. J'ai eu l'expérience avec jus de la vigne de beaucoup de personnes qui ont fait goûter à leur entourage, par exemple, des vins rosés, du Beaujolais, des vins pétillants, à des personnes qui n'aimaient pas ce type de vin et qui ont été totalement convaincues se dire mince, mais le crémant ou le vin effervescent, c'est pas ce que je connais, quoi. Le rosé, c'est pas juste la piquette de supermarché, il y a de l'excellent rosé qui se fait aussi. Et le vin nature, ça permet d'aller chercher des vignerons qui font de l'excellent travail dans toutes les régions de France et dans toutes les méthodes de vinification possibles.
Il y a quelque chose avec l'expérience, parce qu'on a un peu d'expérience dans le vin et on rencontre beaucoup de gens. C'est la réticence qu'a l'Alsacien avec ses vins d'Alsace. Parce que souvent, il te dit oui, il y a du soufre, oui, j'ai mal à la tête, oui, c'est pas bon. Est-ce que tu penses qu'on arriverait à... c'est un défi que j'ai envie de te lancer, de dire aux gens, arrêtez d'acheter vos vins d'Alsace. Alors les autres aussi, mais surtout les vins d'Alsace, supermarché. Parce que si vous prenez la ligne de train qui va de Strasbourg en passant par Molsheim jusqu'à Célestat, vous passez à Dambach, Epfig. Et Epfig, vous sortez, vous marchez 5 minutes et vous avez Ostertag, qui est pour moi l'un des papes du vin d'Alsace. Sinon à Dambach, vous avez Florian Beckhardweg, que moi j'appelle Panoramix parce que le type est frappadingue. Mais c'est un bon fou, moi j'aime bien les bons fous. Qu'est-ce que t'as envie de... Est-ce que tu pourrais convaincre toi les gens? Quelle est ton opinion surtout sur les vins d'Alsace?
Je pense que effectivement l'Alsace a eu par le passé une très mauvaise image, comme tu disais, de vins qui donnent mal à la tête, de vins qui sont trop sulfités et de vins qui sont trop sucrés. C'est vrai que j'ai travaillé pas mal d'années en région d'Île-de-France. La plupart du temps, quand je disais que je rentrais en Alsace, on me disait tiens, ramène-moi une bouteille de Gewürztraminer Vendange Tardive. Et l'Alsace, ce n'est pas que ça, et ce n'est pas que du sucre, et loin de là. Il y a d'excellents vins secs, les meilleurs du monde selon pas mal de gens, dont moi forcément. Mais oui, il y a une très belle diversité aussi. Je pense que l'Alsace a une carte à jouer sur sa grande diversité des sols. Pas juste proposer, on fait du Riesling, du Pinot Gris. Le Riesling, quand il est à Dambach-la-Ville, ce que tu disais, ou quand il est un peu plus au nord du côté de Marlenheim, on a des goûts qui sont complètement différents dus au type de sol. Et je pense que c'est plutôt là-dessus, sur ces lieux dits, qu'il faut jouer, sur cette diversité. Et les vins nature permettent justement d'éviter de tomber un petit peu dans cette monotomie du Riesling qu'on attend, qu'on connaît parfaitement et qui a été travaillé pour donner un Riesling un peu technique.
Où aimes-tu boire un verre à Strasbourg ou en Alsace? Où est-ce que tu aimes bien manger? Est-ce que il y a un petit couple qui veut faire un petit repas en amoureux? Qu'est-ce que tu leur conseillerais comme restaurant sur Strasbourg et pourquoi tu aimes bien manger dans ces endroits-là? Tu disais que tu achetais tes vins à Unosphère et au fil du vin libre. Salut Jean, salut Benoît. Mais est-ce que tu vas dans chez d'autres cavistes en Alsace? Moi par exemple, alors mon idée, il y en a un que j'aime beaucoup et particulièrement, mais qui se trouve à Kiel, à l'entrée de Kiel. Vous avez un fou, ouais, encore un fou, mais il y a beaucoup de fous dans le vin nature, qui est Vinoteca. Donc François, il va vous proposer des milliers de bouteilles du monde entier. Et en revenant à la question, tu aimes manger où et tu aimes boire où manger à Strasbourg?
François de la Vinoteca Maxima, que j'apprécie beaucoup également, qui a surtout des vins qu'on ne trouve pas partout, puisqu'il a des vins du monde entier. Il va chercher des bouteilles dans d'autres pays, donc c'est super intéressant pour sortir un petit peu du cadre habituel. Sinon, là où j'aime bien boire, on a le Garde-Fou, qui évidemment a une ambiance aussi hyper sympa, très conviviale. Une très belle carte de vin ouvert aussi, beaucoup de magnum, hein, pas mal de bières aussi, donc ça j'aime beaucoup. Le Café des Sports est un petit peu dans ce même esprit aussi, c'est-à-dire on se prend pas la tête, on déguste des bons produits, que ce soit à boire ou à manger. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais du Pont Corbeau, effectivement, en termes de carte des vins en restaurant. Je pense qu'on ne peut pas battre le Pont Corbeau qui a des références exceptionnelles, énormes, avec maintenant la fille qui a repris et qui s'y connaît parfaitement bien aussi. Et surtout, des coefficients qui sont très très faibles pour la restauration. Quoi. On peut vraiment se faire plaisir pour des coûts complètement raisonnables et avec des bouteilles qui sont impossibles à trouver chez d'autres cavistes. Donc c'est vraiment super, c'est vraiment un super bon plan.
Merci Adrien. Alors Adrien, il est en face de moi. Il a les yeux qui pétillent, il a là sa moustache qui frétille. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi, tout simplement parce que tu sais, ça se sent que c'est un passionné. J'espère qu'on arrivera au fur et à mesure des épisodes de ce podcast à vous convaincre de pousser la porte des cavistes, de pousser la porte de vignerons tout simplement. Alors il y a plusieurs cavistes que vous allez rencontrer au fur et à mesure des épisodes. Alors je vais certainement en oublier, mais je vais en citer certains. Vous allez avoir la cave en tournée avec Nicolas, la vinoterie qui est à la Vonsono avec Maxime. Vous allez avoir le Café des Sports, Xavier, Geoffrey, Marianne et Géraud en Cantalou. Oui, c'est très compliqué à prononcer, c'est un Cantalou. Donc lui, c'est un Auvergnat et elle, c'est une Alsacienne. Et ils ont fait un petit gloubi-boulga, comme on dit, assez sympa. Donc on va vous présenter également, alors lui j'y tiens assez parce que c'est un de mes cavistes préférés, qui se trouve à Kiel, à l'entrée de Kiel, juste en face du tram, donc vous n'avez même pas besoin de porter beaucoup très lourd du centre-ville, ça vous emmène directement. C'est François et Vinoteca qui a notamment, alors il a beaucoup de vins, il a des vins français, mais il a surtout des vins allemands, autrichiens, canadiens, australiens, slovènes, géorgiens. J'arrête là parce que la liste est encore un peu longue. C'est pour ça que j'ai eu envie de créer ce podcast pour vous faire saliver d'envie et que vous poussiez les bonnes portes. On va passer à la dégustation. Oh là 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 là. Un petit vin géorgien. Ça c'est génial parce que je n'ai jamais bu de vin de Géorgie. On parle bien de Géorgie côté de la Russie.
Bien sûr, juste en dessous du Caucase, oui, tout à fait.
C'est pas les États-Unis, non, parce que certains vont penser qu'on allait jusqu'aux États-Unis. Non, non, on est bien à Strasbourg, mais il y en a certains qui font des voyages d'études dans le vin. En Géorgie en ce moment, c'est un peu la destination favorite des amateurs de vin.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y rendent, mais ce serait sans doute le premier pays à avoir fait du vin. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant, une vraie tradition. Et une façon de faire qui est complètement différente. Donc oui, je pense que le pèlerinage est totalement justifié.
Mon petit doigt me dit que tu as été voir ce vigneron. Et vu comme tu regardes la bouteille amoureusement... Ah ouais, là, c'est Bitty Bouple. Vous voyez pas les yeux, moi j'ai vu sortir, c'était quelque chose. Comme tu regardes ce vin amoureusement, tu vas nous parler du vigneron, de cette rencontre. Je crois qu'elle t'a un petit peu marqué, ou même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce voyage a l'air de t'avoir marqué.
Effectivement, ce voyage m'a beaucoup marqué. C'est vraiment un pays qu'on connaît pas bien, la Géorgie, que personne ne connaît, mais qui a une énorme tradition. Qui a ce peuple géorgien qui est hyper sympathique. Donc il y aurait vraiment énormément de choses à dire là-dessus. Donc pourquoi j'ai choisi cette bouteille de Yago, donc Bitarishvili, il est situé en fait au centre de la Géorgie, dans une région qui n'est pas trop connue pour son vin. En fait, c'est parce que c'est le premier vigneron à avoir travaillé en agriculture biologique en Géorgie en 1998, et ça a été le premier à être certifié en 2005. Donc il faut savoir qu'en Géorgie, il y a un petit peu tout le monde qui fait son vin. Tu vas dans n'importe quelle famille, ils t'invitent à manger, ils te sortent leur bouteille en plastique, et ils font tous leur vin en méthode traditionnelle. Finalement, le fait de le mettre en bouteille et de le vendre, c'est pas quelque chose qui est inné chez eux. Ils ont eu une grande période où ils étaient sous influence soviétique, voire complètement dans l'URSS en fait, où il y avait uniquement des grosses machines de guerre qui ont tout arraché, tout ce qui était en coteaux, qui ont mis des vignes partout en plaine, qui voulaient du rendement, donc qui ont fait des choses qui n'étaient pas terribles. Là, enfin, donc on a Yago Bitarishvili qui a été un des premiers à avoir embouteillé et à mettre en vente ces bouteilles et qui a créé une génération de jeunes vignerons que maintenant on peut avoir, qui n'existaient pas du tout il y a 10 ans. Et qui ont repris leur vigne familiale et qui font des vins qui sont totalement magnifiques, quoi. Il faut les goûter.
Alors moi, j'ai eu l'occasion de goûter quelques vins slovènes. Ce qui m'a surpris dans l'expérience, c'est déjà bon de savoir que là-bas, ils font du vin. Alors Croatie, c'est déjà un peu plus connu. Mais la précision, la qualité des arômes au niveau du nez, en bouche, c'était d'une précision incomparable. Et ça m'a surpris justement que ça soit aussi bon. Et qu'au final, on parle souvent de la France, encore heureux qu'on parle de la France, de l'Italie, du Portugal, mais je crois qu'en termes de vin biodynamie et nature, il ne faudrait pas s'inquiéter de l'arrivée des vins de l'Est qui sont quand même visiblement de grande qualité.
Je pense que toi, comme moi, on est un petit peu chauvin, on adore les vins d'Alsace et on adore les vins français aussi. Néanmoins, effectivement, comme tu le dis, c'est super intéressant de s'ouvrir et d'aller goûter ce qui se fait ailleurs parce qu'ils arrivent à faire des choses qui sont magnifiques. Ils sont, pour certains, un petit peu trop inspirés du modèle français, justement, et du modèle un petit peu boisé, super bordelais, où on allait importer les cépages, finalement, Cabernet Sauvignon et mettre du Chardonnay partout, qui a très peu d'intérêt. Et il y a un renouveau dans ces pays-là qui ont une vraie identité, qui ont des cépages, qui ont une histoire à raconter. Et c'est vers ces vignerons-là qu'effectivement il faut se tourner. C'est ces vignerons-là qui viendront pas faire concurrence à la France, mais qui viendront apporter une diversité qui est hyper intéressante et qui va pousser tout le monde à faire mieux, quoi.
On parle et si on se mettait à déguster. Alors, pour la petite histoire, ça fait 3 quarts d'heure que la bouteille est à côté de nous, en train d'aérer, de s'oxygéner. Oui, parce que là, je fais un petit coucou à Binous USC. Alors, Binous USC, vous aurez aussi un lien. C'est un podcast sur la bière. Eux, ils l'ouvrent en direct, donc vous entendez le chut pour ouvrir la bière. À nous, on peut pas ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est un bruitage fait maison. Hein, c'est magnifique. Du coup, on va goûter, on va servir. Alors, je précise, c'est Yago, c'est l'année 2017.
Exactement, et du cépage Chinouri, donc qui est le cépage emblématique de sa région et qu'on trouve uniquement dans cette région-là, quoi. La Géorgie a plus de 500 cépages autochtones, donc il y a énormément de diversité, le Chinouri est le cépage emblématique de cette région.
La robe est magnifique. C'est un peu, alors c'est bon, forcément c'est bien jaune, un peu citronné au niveau du jaune,
un peu trouble.
On en reparlera effectivement sur la technique de vinification, mais moi je trouve qu'il est plutôt limpide. Après, pour être tout à fait honnête, le visuel, moi dans le vin, c'est pas ce qui me passionne le plus. On va dire que le vin, s'il est trouble, s'il y a une couleur qui est particulière, c'est pas grave. C'est vraiment au niveau du goût que ça va se jouer et je m'attarde pas trop sur la couleur.
Tu confirmes bien qu'un vin un petit peu trouble n'est pas un défaut de qualité.
Sans aller jusqu'au fait de rechercher du trouble dans le vin, parce qu'il paraît que ça se fait aussi, on peut rajouter des choses dedans pour le rendre plus trouble, donc c'est n'importe quoi. Mais effectivement, non, il faut pas se formaliser à ça. Et le fait de filtrer un vin, finalement, ça peut lui faire plus de mal que de bien. Donc ne pas se formaliser à ça et mettre plutôt le nez dedans que de le regarder pendant 3 heures.
Nous levons notre verre à cette nouvelle aventure. On boit à votre santé. Nous, en tout cas, on boit peu, mais on boit du bon. Alors, on fait toujours tourner le petit verre, histoire d'oxygéner bien le vin, de façon que les arômes imprègnent les parois de votre verre. Et puis, forcément, l'étape numéro 2, c'est le nez. C'est un premier signe qui vous dit si le vin vous plaît ou pas. Entre le nez et la bouche, forcément, il y a parfois et souvent des différences. Les arômes que vous sentez par le nez, vous ne les aurez pas forcément en bouche et vice versa. C'est ça qui est magnifique. Alors tous les gens qui ont un petit peu peur, alors ça je vous le dis parce qu'on a tous commencé comme ça, oui mais j'y connais rien en arôme, machin, c'est pas grave, un nez ça se travaille. La différence entre un enfant et un adulte, est-ce que tu sais ce que c'est?
Un enfant n'a pas le droit de boire du vin déjà, c'est bien dommage pour lui.
Hormis celui-là.
Non, vas-y, dis-moi.
Une fois qu'on est adulte, on arrête de développer nos sens. Puisque quand on est petit, on vous fait tout goûter. On n'y a pas envie, mais tu goûtes quand même. Ah oui, et ça crée la palette d'odeurs, des sens. Sauf qu'une fois qu'on est adulte, on arrête totalement de développer nos sens. Du coup, ce qui a fait que aujourd'hui, quand certains boivent du café, ils ne sentent pas les arômes. Non seulement le café est en capsule ou en dosette, donc de toute façon, le café est écrasé et du coup, forcément, il n'a pas d'arôme. Mais c'est pareil pour le thé. Aujourd'hui, vous demandez à des gens de sortir les arômes du thé. Vous avez dans les yeux, c'est un stress, hein. Ils vous sortent le drapeau blanc, il y a les yeux qui pétillent. Du coup, quand on commence à apprécier le vin, et si jamais vous avez parfois tendance à vouloir goûter du vin et vous n'osez pas dire ce qu'il y a, c'est pas grave. C'est ce que vous sentez qui est important et ce sont vos émotions qui doivent être importantes. Donc, le nez va ouvrir la première porte de l'émotion. La bouche, après, forcément, fera le reste.
Je comprends mieux pourquoi, lors de certaines dégustations, du coup, ça nous rappelle beaucoup plus des souvenirs d'enfance que des souvenirs d'il y a quelques années. Je comprends beaucoup mieux ça.
On va passer à la dégustation parce qu'on parle beaucoup, mais on boit aussi.
Je trouve toujours ce vin complètement magnifique. Pour être tout à fait honnête, ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas goûté, donc c'est un véritable plaisir que de l'ouvrir aujourd'hui. Et c'est juste incroyable toujours. Je vous raconterai après comment ce vin est fait. Et quand on le goûte vraiment, on ne s'imagine pas que c'est ça, quoi. On a vraiment une très très belle fraîcheur. Moi, c'est ce qui me frappe le plus par rapport à la méthode de vinification. On est sur un vin de macération, donc, mais c'est super frais, c'est magnifique, ça se boit tout seul. Mais il y a quand même une grosse complexité, ça enrobe vraiment tout le palais. C'est vraiment super intéressant, quoi. C'est pas des vins qu'on a l'habitude de déguster.
Alors moi, ce qui me surprend, c'est que quand vous l'avez en bouche, déjà, il reste longtemps en bouche. Ça, c'est pour moi un point fort, ce qu'on appelle la caudalie en version sommelier. Mais surtout, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on a l'impression qu'il est très alcooleux en bouche, alors qu'il ne fait que 13%, donc c'est pas non plus très très puissant. Ce qui est magnifique quand vous goûtez un vin, c'est que quand vous aimez bien manger, tout de suite, moi qui adore le fromage, là, je vois mon petit fromage de brebis, mon petit, ça remplace. Alors, on n'est pas sur un pinot gris, c'est pas du tout le même cépage, mais je trouve que ça a un peu cette hauteur-là, avec des fromages frais de brebis, de chèvre, ça n'écrase pas du tout le fromage. Je crois même que ça le mettrait en avant et les deux accords seraient exceptionnels et parfaits. Je trouve qu'il est au niveau des arômes, on a beaucoup de, il y a un petit côté citronné qui ressort bien, mais c'est surtout la fraîcheur. J'ai l'impression qu'il y a aussi des petites fleurs blanches fin de bouche qui est magnifique. Pas trop épicé pour moi. Moi, je trouve qu'il est, il est vraiment bien. Alors, c'est vraiment, on est sur un vin blanc, d'accord. Il est frais. Cette fraîcheur vous donne, on a envie de tomber amoureux, quoi. Ça, tu bois ça avec ta copine ou ton copain en tête à tête, ça va la rendre amoureux. amoureuse ou amoureux. Ça, c'est parce que j'ai rencontré le vin.
On ne promettra rien sur ce filtre d'amour, néanmoins je te suis totalement. Moi sur le nez j'ai plus un côté fruit confit, j'ai presque une impression de sucre sur le nez qu'on ne retrouve pas du tout en bouche par la suite. Après ce qui est amusant sur le fromage, effectivement ça marche super bien. Et quand on est allé voir le vigneron, ils ont un plat traditionnel en Géorgie qui s'appelle le kachapuri, qui est du pain avec du fromage de brebis justement à l'intérieur, des petites groseilles à côté, du fromage de brebis, ça passait vraiment super bien quoi. Donc effectivement ça irait super bien avec ça.
Du coup, ce vigneron l'a rencontré, parce que comme vous savez, vous l'avez entendu dans l'interview tout à l'heure, c'est Adrien, il se promène avec sa petite caméra et il est rentré dans la mode des influenceurs sur YouTube. Et il n'est pas encore totalement en place sur Instagram, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, je vous rassure, il ne se mettra jamais nu sur Instagram. On parlait d'émotion tout à l'heure, parce que moi, ça c'est le genre de bouteille, tu le mets devant avec tes potes, tu passes un bon moment, t'as les yeux qui brillent. Est-ce que quand t'as rencontré le vigneron, est-ce que tu peux un peu le présenter ce vigneron?
Déjà, comment j'ai choisi ce vigneron? Donc effectivement, comme je te disais, il y avait cette histoire du fait que c'était le premier à organiser un salon des vins nature, le premier à être passé en agriculture biologique. Mais en fait, je suis arrivé en Géorgie, je suis allé dans la capitale et j'ai essayé de goûter le maximum de vins naturels possible, donc d'aller faire le tour des bars à vin qu'il y avait à Tbilissi. Et je suis tombé amoureux comme ça d'une dizaine de bouteilles, donc j'ai essayé de rencontrer chacun des vignerons. Et je suis tombé sur cette personne-là qui revenait d'un salon, donc qui avait atterri la veille au soir et qui a bien voulu quand même me recevoir chez lui. Donc c'est un domaine qui est magnifique, complètement dans la campagne, forcément, c'est ce qu'on attend aussi. Avec des pergolas partout, donc il y a vraiment le vin qui imprègne son domaine énormément. Sa femme qui ramène à manger, donc qui fait également du vin, et c'est la première femme à avoir fait du vin en Géorgie. Donc pour te le présenter un petit peu, lui, il a, je pense qu'il a entre 45 et 55 ans, donc il est quand même assez âgé. Comme je te le disais, il y avait l'épisode soviétique qui a fait que c'était finalement assez compliqué de se lancer en entreprise.
Parce que pour toi, 45 ans, c'est âgé.
Enfin, dans 5 ans pour toi, donc ça va, t'as encore le temps de le voir venir. Bon, il a perdu un peu de cheveux, je crois que toi, niveau capillaire, tu es un peu plus développé.
Ça va, je m'en sors.
Après, effectivement, vous pouvez le rencontrer en vidéo sur la chaîne YouTube, comme vous l'a dit Mickaël. Mais lui, il a un tout petit domaine, donc il est resté à 3 hectares, 3 hectares et demi. Il est en train de passer la main à ses fils actuellement, mais ce qu'il veut surtout, c'est de ne pas grossir son domaine. Il a envie de rester sur cette petite production-là. Il est aux alentours de 5000 bouteilles par an, donc c'est vraiment quelque chose de très léger, donc ça marche super bien pour lui.
Maintenant qu'on a un peu une idée du jeune vieux de 45-55 ans, ce qui serait bien, c'est que tu nous racontes comment est-ce qu'il fait ce vin. Parce que je crois qu'en Géorgie, ils aiment beaucoup les amphores et vinifier leur vin aux amphores. Est-ce que celui-là, il en fait partie?
Eh bien évidemment, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Iago, ce qui est très important pour lui, c'est de maintenir cette tradition et cette méthode traditionnelle du vin géorgien qui en font depuis 8000 ans, comme je te le disais. Et donc, ils font majoritairement leur vin dans des amphores en terre cuite, ce qu'on appelle gveveri. Donc, ils sont faits de façon artisanale aussi. Je suis allé rencontrer d'ailleurs un des artisans qui fait ça complètement tout à la main, et c'est assez impressionnant à voir, parce que tu as des gveveri qui sont quand même énormes. Donc, pour te parler un petit peu plus de ce vin donc, qui est fait en méthode traditionnelle, donc ils récoltent tous les raisins, ils le laissent en entier et ils te le mettent dans ces grandes amphores là. Donc c'est des amphores énormes pour, à titre d'information, pour les nettoyer, ils sont obligés de rentrer à l'intérieur et de frotter pendant plusieurs jours pour essayer de nettoyer ces amphores là. Donc c'est ce qui est vraiment le plus compliqué. En quelques mots, donc pour la vinification, donc ils mettent les raisins en grappe entière dans cette grande amphore. La fermentation alcoolique commence à se faire. Du coup, il y a un dégagement de dioxyde de carbone qui fait remonter toutes les peaux en surface. Et pour que la fermentation se passe bien, Iago est obligé de pousser ses peaux à l'intérieur avec une énorme tige. Donc c'est la photo que vous voyez sur la bouteille. C'est cette petite image-là, c'est cette tige. Donc il est obligé de remuer tout ça plusieurs fois par jour. Et la fermentation va durer plusieurs mois. Ensuite, les peaux vont tomber au sol. Donc ils vont prendre le jus qui est au-dessus et laisser tout ce qui est à enlever au sol. C'est pour ça qu'on a un vin un petit peu qui est presque limpide. Toi, tu disais qu'il était trouble, mais au final, on a un trouble, un voile qui est quand même très léger. On a quelque chose de super limpide. Donc ce jus, ils vont le mettre dans des gveveries qui sont plus petites et les élever pendant de nombreux mois, quoi. Donc il y a une macération vraiment qui dure entre 5 et 6 mois avec les peaux. Et c'est ça qui est super étonnant, où je te disais, il y a une fraîcheur qui est incroyable parce qu'on a une macération de 5 à 6 mois. En France, on a du mal à faire des macérations de plus de 15 jours parce qu'on a l'impression que ça va tout de suite prendre le dessus et tout. Et là, on a 6 mois et on a quand même quelque chose qui est super frais, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant.
En tout cas, moi, je pense que c'est bien qu'on goûte un petit peu des vins d'ailleurs. Ça ouvre nos horizons. Après, nous, on le fait, mais nous, on vous incite vraiment à fouiller Allez chez les petits cavistes, un peu comme autrefois quand vous allez chez l'épicier ou chez le bibliothécaire à l'époque où vous cherchiez des vieux livres. Mais c'est un peu ça, c'est vraiment chercher, faites-vous plaisir, achetez peut-être moins de vin, mais plus de vin de qualité, vous en dépenserez moins. Et puis en plus, pour votre santé, c'est pas négligeable non plus. Parce que nous, on a le motif, c'est boire toujours moins mais mieux. Le but est là. En plus, comme dirait Pierre Abi, ben, vous faites aussi votre part, parce que non seulement vous soutenez un vigneron indépendant, mais en plus, vous faites aussi un geste écologique, puisque ce sont des vins nature. Donc il y a quand même, même s'ils font du vin et que le vin reste de l'alcool, et on le précisera régulièrement, le but c'était aussi qu'à un moment donné, vous puissiez vous voir des gens qui font un travail de qualité, un travail qui respecte leur terre, leur sol et la nature. Du coup, un bienfait pour le réchauffement climatique, etc. Enfin, on en entend pas mal parler ces derniers temps, hein, entre le Brésil, etc. Mais ouais, ça nous permet d'être... Bah non, on aime boire de bonnes choses, mais boire en étant responsable, je crois que c'est encore mieux.
Je pense que c'était pour ça aussi que c'était intéressant de me déplacer, d'aller rencontrer finalement ces vignerons, parce qu'on se rend compte que c'est des humains, que c'est des gens qui sont passionnés par le métier qu'ils font. Et ils le font vraiment avec cœur. Il m'en a parlé beaucoup de ça, que c'est un choix de vie finalement. En 98, passer en agriculture biologique, c'était pas forcément quelque chose qui était évident. Et bah, il l'a fait parce que c'était ses convictions personnelles, parce qu'il se voyait pas boire autre chose, il se voyait pas travailler autrement. Et le fait de rencontrer les vignerons, on voit là qu'il y a une vraie différence. Tout à l'heure, tu me parlais de comment convaincre quelqu'un de mettre peut-être un peu plus et de ne pas aller dans les vins de supermarché. Bah, c'est simple, allez rencontrer celui qui fait votre vin de supermarché, allez rencontrer celui qui fait ses beaux vins nature, et vous verrez que la logique est complètement différente. Souvent, ces bouteilles sont peut-être un peu plus chères, mais les vignerons, ils gagnent pas forcément beaucoup plus d'argent. Ils le font parce qu'ils le font avec passion et que c'est les vins qu'ils ont envie de boire, proposer aux autres, et c'est ça qui est beau, quoi.
Bon, ben, nous, on continue à déguster. Du coup, on enregistre cet épisode qu'on appelle l'épisode 0. Oui, on a fait comme les Américains quand ils veulent valider une série. On a mis épisode 0 parce que en général, aux États-Unis, pour valider une série et la chaîne, ils font un pilote. Donc c'est un peu notre pilote. Donc peut-être que à la fin de l'écoute, vous aurez envie de nous envoyer des tomates, etc. J'espère que vous serez indulgents. Mais en tout cas, moi, je suis assez fier de l'épisode parce que j'ai envie de vous présenter. Alors, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je passe ma deuxième maison. Je trouve dans la rue d'Austerlitz un restaurant. C'est un concept danois. C'est Johnson qui a créé Norbro. Alors, il va me corriger si je prononce mal. Johnson, que j'ai rencontré il y a maintenant 4 ans, j'ai suivi son projet, je l'ai saoulé à maintes et maintes reprises. Quand est-ce que tu ouvres ? Parce qu'à un moment donné, j'ai un peu baissé les bras, j'ai dit bon, ça viendra peut-être pas. Et puis si, bah, il l'a fait, il a eu ce courage d'être indépendant, d'avoir son concept à lui. Qui n'est pas une franchise, j'aime bien le préciser parce que c'est important. Et du coup, j'avais envie de vous le présenter. Bonjour Johnson.
Bonjour à tous.
La première question que j'ai envie de te poser, alors comment t'es venu cette idée de Norbro ?
Alors c'est venu la première fois quand j'ai vécu, j'ai passé un week-end plutôt à Copenhague, donc ça c'était en 2010. J'avais en fait passé quelques jours là-bas et en fait je suis tombé raide dingue en fait de la vie, du mode de vie, parce que je voyais vraiment, vraiment des gens souriants en face de moi. Je dirais que les gens en fait qui vivent sur place là-bas dégageaient une énergie extrêmement positive et je l'avais capté. Ça m'avait tellement intrigué que je me suis dit ça m'avait vraiment donné envie de vivre là-bas au jour le jour comme n'importe quelle personne qui vit là-bas et de vivre en fait mon expérience tout simplement. Donc en fait je suis retourné là-bas c'était en août 2013, donc après mes études. J'ai trouvé un travail assez rapidement et j'ai commencé en fait à vivre au jour le jour comme n'importe quel Danois ou n'importe quel effectivement ressortissant à l'étranger vivant là-bas. Et j'ai vécu dans le quartier de Norbro. Alors Norbro, c'est quoi ? C'est un peu comme la Krutnau ici à Strasbourg. C'est le quartier un peu en vogue, un peu à la mode, où il y a plein de petits cafés, il y a plein de petits concepts qui poussent, qui pullule dans le quartier. C'est une ville dans la ville, parce qu'il n'est même pas nécessaire d'aller dans d'autres quartiers de Copenhague. Alors, c'est très cosmo, effectivement, donc on peut trouver vraiment une multitude de concepts alors culinaires, ou de cafés, ou de la musique, ou entendre de la musique. Donc, j'ai vraiment passé 2 belles années là-bas, et vraiment, ça m'a... Alors, je parle encore aujourd'hui avec un peu de nostalgie, mais aujourd'hui, effectivement, je suis très content d'avoir vécu cette expérience là-bas. Et c'est cette expérience-là qui m'a vraiment donné envie de prendre une partie de Copenhague ou de la gastronomie danoise et d'en fait de la conceptualiser en restauration rapide à Strasbourg.
Comment est-ce que tu décrirais ton restaurant déjà? Première des choses, parce que c'est un concept assez original puisque c'est toi qui l'as créé, que c'est pas une chaîne, que c'est pas comme les sushis, les burgers et les kebabs qui ont pignon sur rue. Bah décris-nous ton restaurant, c'est quoi en fait ton restaurant? Okay, on y mange quoi d'ailleurs?
Alors c'est bien que tu le dises parce que ce n'est pas un restaurant. Voilà, déjà pour commencer. On est vraiment dans un concept où tu peux faire à peu près tout ce que tu veux ici. Prendre un café ou un chocolat chaud ou un thé ou avec une pâtisserie scandinave, mais aussi prendre effectivement un véritable déjeuner à la danoise ou à la suédoise ou à la norvégienne. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement différent de ce que peut trouver effectivement à Strasbourg parce qu'il n'y a pas de comparatif possible. Je suis quasi seul au monde en tout cas à Strasbourg. Et l'endroit en fait auquel vous vous trouvez actuellement, j'ai essayé de retranscrire ou de pas de copier-coller parce que c'est très difficile de faire un copier-coller par rapport à ce qui se passe à Copenhague, mais de retrouver certains codes dans ma boutique. Donc j'appellerais pas ça un resto, un café, un snack, mais j'appellerais vraiment ça un concept food. Si vous avez envie de manger à n'importe quelle heure de la journée, c'est tout à fait possible ici. Vous allez prendre effectivement envie d'une sucrerie, c'est tout à fait possible ici. La seule différence, effectivement, c'est que vous allez retrouver des spécialités ou des produits phares scandinaves dans ma boutique.
Alors, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Tu as parlé de café, mais pas n'importe quel. Moi, je crois savoir que dans le travail que tu as fait pour lancer ton concept, tu as aussi, toi, fait ta part dans le local, dans l'environnement. Tu as vraiment essayé de faire travailler des gens dans la région. Est-ce que tu peux nous parler déjà, surtout, on mange quoi? Parce que c'est quoi un smørrebrød que nous, on sait, on a le visuel. Et surtout, avec qui tu travailles? Parce que je crois que ça, c'est important que tu le soulignes, parce que tu as vraiment fait un effort que beaucoup pourraient faire à Strasbourg qu'ils ne font pas. Et contrairement à eux, il n'y a pas de surgelé, je crois bien.
Je dis juste, j'ai voulu en fait prôner quelque chose qui était très important aussi à Copenhague, c'est jouer la proximité. Donc je travaille avec des artisans, des fournisseurs locaux. Pour donner l'exemple du café, je travaille avec une torréfactrice qui torréfie son café vraiment au sud de Strasbourg et qui, chaque mois, on change effectivement d'origine de café. Donc on travaille vraiment avec un café d'origine et pas effectivement un café d'industriel qui peut être fade en termes de goût. Moi, j'ai pris le pari effectivement de travailler avec des artisans qui ont l'amour de leur métier, hein, parce que c'est aujourd'hui très dur effectivement d'être indépendant. Tu en parlais justement en première partie de ton podcast avec effectivement un passionné du vin qui effectivement privilégie d'avoir effectivement des produits de qualité, et j'ai voulu privilégier des artisans qui veulent proposer aux clients finaux des produits de qualité. Donc c'est le cas avec mes tartines, qu'on appelle des smørrebrød en danois. Ces tartines, il s'agit en fait d'un pain de seigle qui est réalisé par un boulanger, encore une fois, qui est basé à Strasbourg. On est sur effectivement différents condiments. On peut aller sur du simple végétarien, mais aussi avec de la viande rouge, mais aussi avec du poisson. Là encore une fois, je travaille avec une bouchère qui est basée aussi à Strasbourg, avec un poissonnier qui est basé également aussi à Strasbourg. Bien sûr, le poisson, lui, ça va être difficile de le faire à Strasbourg, mais ce sont effectivement des passionnés. Je travaille vraiment exclusivement avec des passionnés. Donc ils savent de quoi ils parlent, ils m'aident effectivement dans les choix des différents ingrédients que j'utilise dans mes tartines de tous les jours. Et ça se retranscrit de manière très naturelle dans mes tartines. Donc les clients qui passent effectivement en boutique, le sentent tout de suite dès les premières bouchées. Alors effectivement, c'est un produit qui est différent, donc ils ont bien sûr besoin de se rassurer avec des produits qu'ils ont l'habitude de consommer. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu, par exemple, démarrer avec une tartine qui est le produit phare au Danemark, qui est la tartine au hareng. Alors je sais qu'en Alsace, on peut aimer le hareng, mais ça peut en freiner plus d'un. C'est aussi très difficile pour moi de dire, c'est facile, je vais prendre des recettes qui marchent là-bas, je vais les copier, je vais les faire ici. Non. L'intérêt, c'était aussi de prendre en compte le besoin des Français. Et c'est pour cela qu'il fallait que je travaille bien en amont avec des recettes qui peuvent plaire, pour sûr, effectivement, qui sont en phase avec le besoin, effectivement, des Strasbourgeois. Tu disais juste avant, tu as vu l'évolution du projet, donc j'ai fait pas mal de tests produits, mais il fallait effectivement que ce soit effectivement tip-top pour mes clients, tout simplement.
On parlait tout à l'heure d'art de vivre. Sion, c'est quoi pour toi l'art de vivre à Strasbourg ?
Alors, il s'agit d'une question piège. Alors, l'art de vivre à la Strasbourgeoise, il est très simple. C'est le moment de partage en fin de semaine, principalement, ou en fin de journée. Alors, autour d'un verre, autour effectivement de quelques encas traditionnels. Hein. On est quand même dans une région qui est fortement ancrée et qui est forcément attachée effectivement à ses traditions. Donc, c'était effectivement aussi un challenge pour moi aussi de proposer quelque chose de bien différent qui casse les codes et qui appète effectivement visuellement, parce qu'effectivement, on parle de tartines, mais ces tartines-là sont d'abord visuellement esthétique. Et il fallait effectivement donner envie aux Strasbourgeois de sortir de leur sentier battu et d'essayer de nouvelles choses. Et donc c'est pour cela que j'ai pris le pari d'ouvrir à Strasbourg ce concept-là.
En tant qu'entrepreneur à Strasbourg indépendant, je précise, pour moi c'est très important ce mot parce qu'il n'appartient à personne qu'à lui-même et je trouve ça magnifique. C'est quoi ta plus grande difficulté ?
Alors la principale difficulté que j'ai rencontrée, c'est effectivement le retour de professionnels dans le métier, je dirais. Enfin, on le catégorise assez facilement dans une case. Je dis bon, on n'est pas dans un produit, je dirais, standard. Donc du coup, il y aura forcément des difficultés. Mais cela, en fait, peut entacher ou peut nuire effectivement à la motivation de beaucoup d'entrepreneurs. Alors moi, je peux en parler vraiment pendant des heures. J'ai rencontré beaucoup de porteurs de projets qui ont des idées qui sont vraiment géniales. Mais certaines, il y en a très peu qui vont voir le jour. Parce qu'effectivement, trop de freins, alors soit administratifs, soit financiers, soit liés à la ville, parce qu'aussi on est confronté à une réalité qui est telle que des fois, certains porteurs de projets peuvent abandonner, pas parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils rencontrent beaucoup trop de difficultés, trop de contraintes qui peuvent nuire à leur projet. Donc c'est une réalité. On m'a souvent dit que être entrepreneur, c'est avant tout être obstiné. Et c'est pour cela que malgré les nombreux freins que j'ai eus aussi, hein, je ne veux pas le cacher, hein, j'ai bien galéré pour avant d'ouvrir effectivement cette boutique-là. Voilà, si ce message peut effectivement être adressé à certains entrepreneurs ou porteurs de projets, il faut pas abandonner. Il y a toujours une solution. Ça peut être, c'est un chemin du combattant, mais tout est possible. Il faudra vraiment ruser pour arriver à ses fins.
Et du coup, est-ce que tu as d'autres challenges, d'autres rêves, d'autres projets, d'autres envies ?
Ah, bien évidemment. Je veux dire, la vie, c'est que ça. Si une personne me dit qu'il a pas de projet dans la vie, c'est un petit peu dommage pour lui. Je pense que chacun d'entre nous a des rêves, envie de voyager, envie d'ouvrir ses horizons, de découvrir de nouvelles choses. Pas forcément à travers des voyages, mais aussi à travers le travail, à travers effectivement la famille, à travers les amis. Faut effectivement ne pas être obtus, accepter le partage, apprendre énormément d'autrui. C'est ça aussi qui m'a permis effectivement aujourd'hui. Voilà, je suis pas danois, je le serai jamais, je veux pas l'être. Mais je suis vraiment un amoureux effectivement de ce pays. Mon intérêt, c'est pas d'être un spécialiste, d'être le numéro un danois, je dirais, à Strasbourg. C'est pas mon leitmotiv, clairement pas. Mon intérêt, c'est de partager effectivement mon amour entre guillemets par rapport à la Scandinavie, mais aussi de transmettre ça à des clients qui quand ils rentrent effectivement se disent ah, je voudrais bien aller à Copenhague. Dans ce cas-là, j'en discute avec eux de manière ouverte. Certes, d'autres au contraire ont déjà effectivement eu la chance effectivement d'y aller, et dans ce cas-là on partage effectivement leur expérience. C'est ça, c'est pour moi, c'est avoir des projets, avoir des rêves et surtout les partager par la suite.
Quelque chose me dit que tu vas finir ta vie à Copenhague.
Absolument pas. Sinon, j'y serais encore actuellement. Je trouve qu'effectivement, c'était une importante étape de ma vie. Mais de là à me dire, je vais y retourner pour y vivre, je n'en sais rien. Ça se trouve oui, ça se trouve non. C'est pas, je me ferme pas les portes. Voilà, le monde est assez large pour effectivement trouver d'autres choses, découvrir d'autres choses. Ça se trouve, je serai en Amérique du Sud. Ça se trouve, je serai en Afrique. Ça se trouve, je serai en Asie. Ça se trouve, je serai ailleurs. Mais effectivement, j'ai démarré par le nordique, ça peut se finir par l'africain, l'américain. Pour l'instant, je me sens bien, effectivement, je baigne effectivement dans cette culture scandinave. Mais de là à me dire, je vais y retourner, y vivre, j'en sais rien.
Et avant de conclure, Est-ce que tu peux nous donner un peu les lieux où t'aimes bien aller boire un verre, où t'aimes bien aller manger à Strasbourg ou en Alsace, ou finalement l'Alsace c'est pas que Strasbourg.
Mes endroits préférés, j'en ai pas vraiment. J'adore butiner, découvrir de nouvelles choses. Alors je suis pas comme un Strasbourgeois, je dirais, qui a ses habitudes, qui ne veut pas effectivement y déroger. Au contraire, il y a quelque chose qui va me sauter aux yeux, ça va me donner envie d'y aller, de tester. Et voilà, je suis pas vraiment, je donnerais pas un top 3 de mes adresses parce que j'en ai pas. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, donc je peux vous dire que même à l'étranger, je peux pas vous dire mes endroits phares, ou même à Copenhague, je peux pas vous dire effectivement ce que j'ai adoré le plus. C'est pas vrai, parce que franchement, ce serait biaiser un petit peu le jugement. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des endroits super à Strasbourg, il y en aura d'autres qui vont ouvrir. Faut vraiment se dire qu'on a une chance d'être à Strasbourg, parce qu'effectivement, on a quand même un certain dynamisme. Des nouveaux concepts qui ouvrent, parce qu'on n'est pas non plus effectivement sur de la tarte flambée et sur d'un bretzel. On est vraiment sur des concepts qui donnent vraiment la chance à chaque Strasbourgeois de pouvoir effectivement tester de nouvelles choses de manière continue, et je trouve ça super.
Merci Johnson. Alors moi je vous conseille vivement, vraiment, pousser la porte de Norbro. À l'heure où on dit qu'on consomme trop industriel, etc., là vous avez vraiment un produit de qualité. Le pain est fait par un boulanger indépendant. Vous avez un poissonnier, vous avez eu un boucher, tout est fait maison. Ça c'est très important, en plus vous pouvez boire vos jus de fruits qui sont pressés à la minute. Le café, et forcément, le Balzac. Salut Daniel. Donc vraiment, c'était important pour moi de vous présenter Johnson, déjà, parce que je l'ai toujours soutenu et que je le soutiendrai, que c'est un ami. Donc voilà, merci à toi de nous avoir accueillis pour ce premier. On ne sait pas où ça va nous mener, mais en tout cas, on y est bien. Merci Adrien.
Merci Mickaël, merci Johnson.
Merci Mickaël, merci à tous.
Nous, on n'a pas de Pat Le Guen, on a Alexis qui était derrière les platines pour faire ça. Alors, c'était le premier, je ne sais pas ce que ça rendra, mais on l'a fait avec plaisir, de façon artisanale, c'est magnifique ce mot. De façon indépendante, ce mot aussi, on y tient assez. En tout cas, rendez-vous le mois prochain pour l'épisode numéro 1.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.